Monsieur Pastoureau, bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici à la librairie Mola. Un rapide rappel, vous êtes donc un historien médiéviste, spécialiste de la symbolique, de l'histoire culturelle des emblèmes, de l'héraldique et des couleurs, et bien sûr, le domaine qui va nous intéresser aujourd'hui, de l'histoire culturelle des animaux. Dans ce domaine, vous avez déjà publié plusieurs ouvrages. Au seuil, en tout cas, à titre de rappel, vous avez publié en 2007 « L'ours, histoire d'un roi déchu », en 2018 « Le loup, une histoire culturelle », et cette année 2020 « Le taureau, une histoire culturelle ». Pour commencer, donc aujourd'hui, nous allons parler du taureau, bien évidemment, et en Europe, vous nous expliquez très bien que l'imaginaire culturel autour des animaux s'est bâti autour d'un panthéon, en tout cas d'un panthéon restreint, d'une dizaine d'espèces dont le taureau fait partie. Vous empruntez d'ailleurs l'expression de bestiaire central à François Plotin, docteur en médecine vétérinaire et archéologue. À quel moment, finalement, les bovidés entrent-ils dans ce panthéon? Et cela correspond-il au moment où l'on commence à les représenter?
Oui, l'idée du bestiaire central est une idée qui est née au Muséum d'histoire naturelle. François Poplin et moi-même avons réfléchi sur les rapports entre l'homme et l'animal pendant très très longtemps. Et nous sommes arrivés à l'idée que dans beaucoup de sociétés, il existait un bestiaire central, c'est-à-dire un petit groupe d'animaux qui, du point de vue symbolique, jouait un rôle plus important que les autres et nouait entre eux aussi un certain nombre de relations, ce qui explique la notion de bestiaire. Et en Europe, on peut penser que ce bestiaire s'est constitué très tôt, probablement au néolithique, peut-être même avant, pour les bêtes sauvages. Et la liste n'est pas très longue. On peut y ranger les trois vedettes du bestiaire européen, l'ours, le corbeau et le loup, et puis ajouter le sanglier et le cerf pour les sauvages, peut-être le cygne et l'aigle pour les oiseaux, et puis chez les domestiques, le taureau, le cheval, le chien. Voilà, ça fait une douzaine d'espèces. Et pour ce qui est du taureau, en tout cas, très tôt, il est entré dans ce bestiaire central. Sur les murs des grottes du Paléolithique, on voit déjà l'ancêtre du taureau, le grand taureau sauvage, l'auroch, avec d'autres animaux. Ça n'est pas la vedette du bestiaire peint et gravé sur les grottes. Le cheval, le bison, les cervidés, le rhinocéros, même, sont plus fréquents que lui. Mais enfin, il est bien présent, déjà dans la grotte Chauvet, par exemple, 32 000 ans avant notre ère, puis Lascaux, 17 000 ans avant le temps présent. D'ailleurs, les grands taureaux de Lascaux sont devenus, en quelque sorte, les vedettes de l'art préhistorique, peut-être même les logos. Le grand taureau noir, c'est le logo des préhistoriens. Mais pour ce qui est de notre taureau domestique, il faut attendre des dates plus récentes, la domestication des bovidés se situant vers 8000 ans avant notre ère, en quelque sorte. Il y a plusieurs foyers, le principal étant peut-être aux confins de la Turquie et de la Syrie actuelle.
Alors, justement, sauvage ou domestique, c'est par cette question que s'ouvre votre ouvrage, finalement, qui est une question centrale, puisqu'on le comprend, elle explique les heures et malheurs du taureau à travers l'histoire. Pourquoi se met-on à domestiquer cette bête sauvage?
La domestication, c'est une notion qui a évolué au fil des siècles. On ne l'a pas définie de la même façon aux différentes époques. Aujourd'hui, on considère qu'un animal est domestique à partir du moment où l'être humain maîtrise sa reproduction. Autrefois, jusqu'au moins au XVIIe siècle, est domestique un animal qui vit dans la domus, dans la maison, ou autour de la domus, ce qui fait une liste un peu plus longue qu'aujourd'hui. Les animaux de la ferme, bien sûr, sont domestiques, mais le corbeau, le renard, qui sont là tout près, le renard même dans le poulailler, le rat, la souris, le merle, la pie, tout ça, ce sont des animaux qu'on dit domestiques. Donc, quand on parle de domestication, d'animal domestique, il faut savoir à quelle époque on se trouve. Alors, l'homme a maîtrisé la reproduction des bovins, donc au néolithique. Il faut attendre que l'homme soit sédentaire, parce que les bovins ne peuvent pas suivre longtemps les populations nomades, alors que les caprins et les ovins peuvent le faire. C'est pour ça que chèvres et moutons ont été domestiqués avant les bovins. Ils pouvaient suivre les populations nomades. Pour les bovins, donc, il faut attendre des dates, 7-8 000 ans avant notre ère. Plus on avance dans les recherches, plus ça recule dans le temps. Enfin, faut que l'homme soit sédentaire, qu'il vive dans des villages, qu'il pratique l'agriculture, parce que la première fonction des bovins, ce n'est pas tant de donner de la viande et encore moins du lait. Pendant des siècles et des siècles, on boit surtout le lait de brebis et de chèvres, pas de vaches. Le bœuf et le taureau doivent travailler et tirer la charrue. C'est là l'utilité principale et première. Donc il faut attendre que l'agriculture soit apparue. Et puis, un peu plus tard, le textile, la céramique, etc. Donc le néolithique, c'est la plus grande date dans l'histoire de l'humanité. L'homme nomade devient sédentaire, vit en village et se livre à des activités artisanales de plus en plus nombreuses.
Et par la suite, bien sûr, ce rapport va redéfinir finalement le destin des deux espèces, homme et bovin. Et vous nous parlez également du rapport qui existe avec cet animal durant l'Antiquité. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Oui, alors, le taureau, qui est le plus sauvage des animaux domestiques, comme a dit Buffon, évidemment, la domestication implique la castration de certains mâles. Donc on passe du taureau au bœuf, mais pas de tous les mâles, puisqu'il faut bien garder des reproducteurs. Ce sera le taureau dans la famille des bovins. Et dans l'Antiquité, il y a eu une admiration, peut-être même une vénération pour le taureau domestique, mais non castré, bien sûr. Et on admire sa fougue, sa force, son énergie vitale et sa fécondité. D'où des cultes du taureau pour s'attirer sa force et sa fertilité. On voit bien que assez tôt, on lui a fait tirer la charrue et on a attaché la charrue, la rère, non pas au cou, mais aux cornes. Il y a l'idée que la fertilité venait des cornes qui étaient en relation avec la lune. On les avait la forme, le croissant de lune. Et donc, l'énergie passait de la lune vers les cornes et des cornes vers la charrue et de la charrue vers le sol pour fertiliser et faire prospérer les récoltes. Il y a cette idée répandue dans tout le Proche-Orient et autour du bassin méditerranéen, d'où une admiration pour le taureau et des cultes du taureau attestés un peu partout dès 2000, 3000, parfois 4000 ans avant notre ère. Alors on peut même se demander si le taureau est la première divinité animale, en tout cas sous nos latitudes. Tout dépend du sort fait à l'ours. Autrefois, les préhistoriens pensaient que les hommes et les femmes du Paléolithique avaient un culte de l'ours bien attesté dans les cavernes. Aujourd'hui, ils en sont moins sûrs. S'il y a eu culte de l'ours chez l'homme de Néandertal et de Cro-Magnon, c'est lui, le premier dieu. S'il n'y a pas eu culte de l'ours, ça va être le taureau, parce que les cultes taurins sont très très bien attestés à partir de 3000 ans, en tout cas avant notre ère, et un peu partout autour du bassin méditerranéen et au Proche-Orient.
Alors justement, on voit qu'il y a une symbolique très forte autour du taureau, comme vous venez de nous l'expliquer, comme on peut le voir dans votre livre. Et ce qui explique aussi une omniprésence, enfin une relative omniprésence des bovidés, vaches et taureaux, dans les mythologies occidentales. On pense notamment, en lisant votre ouvrage, donc au mythe de Io, Zeus se transformant en taureau blanc pour s'unir à Io, le Minotaure, bien sûr, mais hors du monde gréco-romain, on pense également au monde celtique, avec l'épisode du cycle d'Ulster, la razzia des vaches de coulée. Cette présence de cette bête ne montre-t-elle pas, au fond, que c'est une bête cathartique, un exutoire de certains fantasmes humains?
Oui et non. Les mythologies, c'est vrai, sont riches en histoires de taureaux, de bovins, d'une manière plus large, sauf peut-être la mythologie nordique, qui a pourtant une espèce de vache primordiale. Mais dans les mythologies celtes et puis gréco-romaines, et même mésopotamiennes, il y a toujours un peu les mêmes histoires. Le fait de posséder des troupeaux de bovins est signe de pouvoir et de richesse. Voler des bovins ou les mettre à mort est toujours un crime extrêmement grave. Et puis nous avons des les histoires de métamorphose d'humains en taureaux ou de taureaux en humains, et enfin des histoires d'accouplement entre un humain et un taureau. C'est l'histoire du Minotaure, par exemple, la reine de Crète, Pasiphaé, par un enchantement du dieu Poséidon, tombe amoureuse d'un immense taureau blanc et s'unit à lui, ce qui donne naissance à cet être monstrueux, mi-homme, mi-taureau, qui est le Minotaure. Mais il y a d'autres histoires du même genre. Donc, autour des mêmes schémas, des récits mythologiques se construisent, qui sont devenus parmi les récits les plus célèbres de la culture occidentale. L'enlèvement d'Europe par Jupiter, les amours de Jupiter, pour prendre le nom romain du dieu, et de la belle Io, qui l'a transformée en génisse, la lutte d'Hercule au cours de au moins deux ou trois de ses travaux contre des taureaux redoutables, le dossier Minotaure qui est immense. Bref, il y a des taureaux partout dans la mythologie gréco-romaine.
Alors, pour en finir avec l'aspect religieux et simple du taureau, dont vous nous avez bien expliqué que le taureau était entre guillemets le premier dieu, il se dispute la place à l'ours, bien sûr. Puis va arriver une religion qui va changer la donne, en Europe en tout cas, c'est le christianisme. Est-ce que vous pouvez nous parler finalement du taureau durant l'ère chrétienne?
Oui, à la fin de l'Empire romain arrivent des religions d'origine orientale qui font concurrence à la vieille religion romaine qui est un petit peu fatiguée. Elles prennent sa place et deux dominent les autres, le mithrasisme et le christianisme. Et le mithrasisme, le culte de Mithra, c'est pas une religion du taureau, mais c'est une religion du soleil. Mais l'instrument important pour le culte, c'est le taureau, le sacrifice d'un taureau. Le sang du taureau sert à baptiser les fidèles. Le prêtre s'asperge du sang de taureau, etc. Pour le christianisme, tout ça est effroyable. Et comme le christianisme a réussi à l'emporter sur la religion rivale, et pour le christianisme, il n'y a pas besoin de sacrifices animaux, puisque le sacrifice du Christ sur la croix, ça suffit. Donc le christianisme, à ses débuts, va prendre en aversion totale le taureau, animal vedette de la religion rivale, et va d'une part le désacraliser, et de l'autre même l'occulter, et à sa place valoriser le bœuf, c'est-à-dire le même animal, mais castré, avec l'idée que le bœuf est pacifique, docile, patient, travailleur. Donc une valorisation du bœuf, qui va prendre place dans la crèche très tôt, avec l'âne, et un discours médiéval chrétien sur le taureau qui est à peu près inexistant. Il y a, pendant 1000 ans, l'Europe occidentale chrétienne parle très très peu du taureau. On rappelle un peu les légendes antiques, mais c'est timide. Et au contraire, on met en scène le bœuf. Ce qui fait que dans mon livre, par exemple, j'ai eu beaucoup de mal à dire quelque chose sur le taureau médiéval. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Mais évidemment, c'était l'occasion de parler de la famille du taureau, du bœuf, du veau, de la vache. On ne peut pas parler du mâle reproducteur sans parler des autres composantes de cette famille. Donc valorisation du bœuf et déclin du taureau pendant tout le Moyen-Âge chrétien.
Et justement, où retrouve-t-on ces représentations médiévales des bovidés, bœufs, vaches?
Le Moyen-Âge nous a laissé un très très grand nombre d'images. Les plus nombreuses, ce sont les miniatures présentes dans les livres manuscrits. Pour l'Europe occidentale, c'est par millions. On en discute, mais entre 5 et 10 millions d'images peintes en couleur nous sont conservées. Et c'est infime par rapport à ce qui a existé. On a également les sceaux de cire, qui constituent une source iconographique considérable pour la culture médiévale. Et puis, il y a les vitraux, il y a les tapisseries, il y a les peintures murales. Quand on est historien des images, pour le Moyen-Âge, on ne manque pas de documents. Et aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup de jeunes chercheurs, profitant des outils de notre temps récent, pour constituer des banques d'images sont beaucoup plus nombreux que quand moi j'étais étudiant à travailler sur les images médiévales. Je m'en réjouis, bien sûr. Et alors, on a tout ce qu'il faut, au fond, pour étudier les images, le rapport entre le texte et les images, faire des études sérielles, des études statistiques, chiffrées, etc. Tout ça est très prometteur d'avenir.
Donc, le Moyen-Âge, effacement du taureau, en tout cas, un relatif oubli, et puis il y a la Renaissance. Et là, la Renaissance, ne serait-ce pas une forme de retour du taureau, de retour en force du taureau?
La Renaissance marque en effet un retour en force du taureau pour plusieurs raisons. La principale, c'est la redécouverte et surtout la revalorisation de l'Antiquité grecque et romaine, la redécouverte des textes antiques qui sont bavards sur le taureau, notamment les récits mythologiques. La redécouverte également par l'archéologie de groupes sculptés qui représentent des taureaux. Le plus célèbre découvert près des thermes de Caracalla à Rome en 1546, c'est ce qu'on appelle le grand taureau farnèse, un immense groupe en marbre pesant presque 20 tonnes qui représente le sacrifice, le supplice même d'une reine attachée aux pattes d'un taureau. Aujourd'hui, on peut voir ce fameux taureau farnèse au musée archéologique de Naples. Et puis, le hasard fait qu'un des papes de la Renaissance, peut-être le pape le plus décrié de toute l'histoire de la papauté, Alexandre VI Borgia, sa famille est aragonaise d'origine, a un taureau dans ses armoiries, bien avant de venir en Italie. Cette famille a déjà un taureau. Le nom du taureau fait probablement un jeu de mots avec le nom Borgia dans un dialecte aragonais que nous devinons. Mais le pape Alexandre VI, à Rome, hein, on est au tout début du XVIe siècle, est très fier de son taureau héraldique, le met en scène partout, dans ses palais et appartements romains, et organise même ce qu'on pourrait appeler les premiers spectacles taurins depuis l'Antiquité romaine. Donc, dans les rues de Rome, sur les places de Rome, on voit des défilés de taureaux, des courses de taureaux. Ce n'est pas du tout les ancêtres de notre corrida moderne, mais c'est déjà une valorisation de l'animal grâce à ce pape, et ça va continuer quelque peu par la suite.
Alors justement, vous parliez de corrida. Dans votre livre, vous revenez sur un bon nombre d'idées reçues qu'on a sur cette bête, et finalement d'idées reçues contemporaines. Et vous parlez de la corrida, qui est une activité qui a suscité beaucoup d'émoi et qui finalement est à l'origine d'une production artistique assez abondante. On le voit plutôt bien dans votre ouvrage, qui, il est bon de le rappeler, est un ouvrage richement illustré. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette corrida moderne, sur le taureau aujourd'hui? N'est-il pas justement victime de préjugés, d'une fausse image qu'on a de cette bête, une bête forte, une bête agressive, une bête violente?
Oui, alors j'essaye de faire le point dans mon livre sur les origines de la corrida. On a beaucoup, beaucoup écrit et dit pas mal de bêtises, en tout cas du point de vue des historiens. Évidemment, les tenanciers de la corrida, pour défendre la corrida, cherchent à montrer qu'elle a des origines très très anciennes. Certains auteurs remontent même à l'auroch du paléolithique, c'est absurde, ou aux courses de taureaux dans la Crète du deuxième millénaire avant notre ère, ça ne tient pas debout non plus, et ainsi de suite. Non, la corrida moderne apparaît en Espagne dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Les premières règles mises en forme, c'est l'extrême fin du XVIIIe siècle, 1796, et puis complétées par des publications ultérieures. Ça se convient à se stabiliser vers 1830, 1836, je crois, pour la grande tauromachia completa, qui organise définitivement le spectacle de la corrida et le rituel. Alors, le taureau de la corrida, ça n'est pas un géant, hein, dans les concours agricoles, les comices agricoles qui apparaissent à peu près à la même époque, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, des bêtes de concours. Un beau taureau, ça dépasse une tonne. Pour la corrida, au contraire, il faut un taureau beaucoup plus léger. 500 kilos, c'est bien. Pas beaucoup plus, avec un certain nombre de critères difficile à définir, de beauté et un comportement noble. Les aficionados savent ce qu'est un comportement noble chez le taureau, les profanes non. Donc le taureau de corrida, il est élevé pour ce faire, il a une vie de taureau particulièrement agréable. Il est d'abord, il n'est pas castré, sinon il deviendrait bœuf. Il est choyé, dorloté pendant 4-5 ans, une vie très agréable. Qui finit très mal, évidemment, en spectacle, avec, pas toujours, mais souvent, mise à mort. Voilà ce qu'est un taureau de corrida, avec un nom propre, avec certains d'entre eux qui sont passés à la postérité comme des stars du monde taurin, notamment ceux qui ont bien combattu ont été épargnés. La corrida suscite toutes les polémiques que l'on connaît, bien sûr. J'ai essayé de faire le point des arguments des uns et des autres. Les positions sont inconciliables. Ça ne sert absolument à rien de faire débattre des partisans et des adversaires de la corrida. Ils ne seront jamais réconciliés. Moi qui suis un peu lâche de tempérament, j'ai quand même donné mon opinion personnelle. Je serais plutôt un adversaire de la corrida en tant qu'ami des animaux. Mais je suis un homme de l'Ouest, pas du Midi ni de la péninsule ibérique, donc je ne connais la corrida que par des films, des images et des lectures. Je n'ai jamais assisté à une corrida.
Enfin, le taureau aujourd'hui n'a-t-il pas été remplacé par son homologue féminin, par la vache aujourd'hui ? La vache n'a-t-elle pas pris la place du taureau dans notre imaginaire contemporain ?
Oui, la vache est devenue, probablement là encore dans le courant du XVIIe ou du XVIIIe siècle, l'emblème de la campagne en Europe occidentale, au moins dans les zones tempérées. Elle se valorise en raison des produits que l'on en retire. À partir du moment où le bœuf ou le taureau ne tire plus la charrue et où l'âne ou le cheval ou le mulet le remplace, c'est la vache qui prend la culotte dans la famille taurine, si je puis dire, et qui devient la vedette. Et alors, il y a une culture du lait de vache qui se met en place à partir du XVIIIe siècle, à la place du lait de brebis et de chèvre, et les fromages qui vont avec, et l'image de la campagne avec un troupeau de vaches et de génisses. C'est en train de disparaître, d'autant que les produits laitiers tirés de la vache, en tout cas, commencent à avoir mauvaise réputation, les accusent de beaucoup de choses. Ce qui est effroyable, on n'élève plus les vaches dans les prés, mais dans des fermes dites modèles, où elles sont plusieurs centaines, qui ne voient jamais la lumière du soleil et qui, au lieu de manger de l'herbe, comme elles l'ont fait pendant des siècles et des millénaires, mangent des farines animales, c'est-à-dire les vaches mangent de la vache, ça devient absolument extravagant. Mais quand j'étais enfant, bien sûr, la vache dans les prés, c'était l'image même de la campagne.